France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires sensibles, Notre-Dame-des-Landes ou la naissance de la ZAD. Le 17 janvier 2018, Édouard Philippe, alors Premier ministre, annonce l'abandon du projet de construction d'un aéroport Notre-Dame-des-Landes, une commune située à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de Nantes. Par cette décision, il met fin à l'une des plus grandes batailles écologiques françaises. Une lutte de près de 40 ans, au cours de laquelle se sont inventées de nouvelles manières de manifester, de militer et même de vivre. C'est en effet à Notre-Dame-des-Landes que naît la ZAD pour zone à défendre, une manière de lutter en occupant l'espace. Au-delà de ce nouvel acronyme, dont la sonorité est efficace, ZAD, facile à retenir, l'originalité du cas de Notre-Dame-des-Landes repose sur la convergence entre les agriculteurs locaux et les militants extérieurs, sur l'affrontement entre l'état de droit et la désobéissance civile, la légalité politique et la légitimité écologique, enfin, sur la répression de plus en plus dure de ces combats pour la défense de l'environnement. Par tous ces aspects, l'épopée de Notre-Dame-des-Landes est une matrice essentielle pour comprendre les enjeux des luttes actuelles sous le feu brûlant de l'actualité comme l'affaire Sainte-Soline ou celle de l'autoroute A69. Notre invité aujourd'hui, Hervé Kempf, journaliste et écrivain, directeur de la rédaction de Reporters, T-E-2-R-E, je précise, auteur de Notre-Dame-des-Landes, publié aux éditions du Seuil, événement qu'il a couvert sur le terrain. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire, Simon Maisonob, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Denante, réalisation Stéphane Combe.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Il était une fois un bocage. Oh, pas le plus beau des bocages, ni le plus grand, non. Juste un bocage typique de cette région. Ces petits champs séparés par des haies, ça et là quelques mares et étangs, des vaches qui broutent dans les prairies humides ou quelques maisons alternent avec des fermes, formant de petits hameaux. Tel se dessine ici le paysage caractéristique de l'arrière-pays nantais, résultat d'une longue histoire agricole, sociale et politique. Parce que ça n'a l'air de rien comme ça, ces haies hautes d'environ un mètre, constituées de bois, de ronces qui viennent strier le paysage. Et pourtant, elles en racontent des luttes. Celles de l'organisation des terres pour s'extraire des servitudes collectives au Moyen-Âge, ou plus tard contre l'État, cet incurable jacobin. Reste que depuis quelques décennies, rien ne semblait pouvoir venir perturber la tranquille campagne nantaise. Jusqu'à l'annonce d'un projet à la fin des années 60 qui va tout changer.
Cette situation, si elle est intéressante vis-à-vis de Nantes, elle est aussi intéressante vis-à-vis de l'ensemble des villes de l'Ouest, dans la mesure où on peut penser que, à partir de 1990, par exemple, ou de 1980, cet aérodrome pourra servir à des liaisons beaucoup plus lointaines. Alors à ce moment-là, on a calculé que la situation de l'aérodrome de Notre-Dame-des-Landes était relativement proche de ce qu'on peut appeler le centre de gravité de l'ensemble des grandes villes de l'Ouest. Ce terrain est exceptionnellement situé dans une zone, d'une part, où l'urbanisation est très faible, et où, d'autre part, où la direction des pistes d'envol, qui sont à peu près dans la direction des vents dominants, c'est-à-dire est-ouest, ne risque pas d'apporter de nuisance sur des territoires où, vraiment, la densité de population est relativement faible.
DATAR. Derrière cet acronyme, il y a d'abord une ambition et des moyens. En 1963, le gouvernement de Georges Pompidou crée la délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale, d'où DATAR. Son but, rééquilibrer la France, rien de moins. Ce sont les Trente Glorieuses, l'heure est à la modernité, à la croissance, à la démographie galopante. Il faut que l'État compense en province le poids à venir de la région parisienne. Dans cette logique, Nantes-Saint-Nazaire s'impose rapidement comme l'un de ces nouveaux pôles décentralisés, avec notamment un projet d'aéroport international pour désenclaver le trafic de la capitale. La France, avec son partenaire britannique, vient d'inventer le Concorde. Le fret aéronautique est l'avenir du transport. Alors on commence à parler de Nantes comme de la Rotterdam aérienne de l'Europe, en référence au plus grand port européen. En 1968, c'est finalement ce site, situé à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de la ville de Nantes, autour de la commune de Notre-Dame-des-Landes, qui est choisi. Donc, tout le monde est content. Les habitants, un peu moins. Disons qu'ils sont sceptiques.
Et qu'est-ce que ça vous fait, vous, de savoir qu'il y aura un aérodrome ici?
On aurait autant aimé pas, mais...
Qu'est-ce qui va se passer pour vous?
On sera obligé de partir, de toute façon.
Obligé de partir.
Chercher un autre endroit pour habiter.
Et où est-ce que vous pensez aller?
Sur Vigneux, parce qu'on est originaire de Vigneux.
Pas très loin, de toute façon.
Oh, non. Alors, ce qu'on a, on aimerait... C'est pour les enfants, ça fait plus de temps pour les enfants que pour nous-mêmes.
Vous prendrez peut-être l'avion, si vous êtes toujours là.
Oh là 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 là, je peux déjà pas monter. C'est de que tu montes dans mon lit, alors. Et non, monter dans l'avion. Ah non, pas moi.
Assez rapidement, un premier comité de défense se met en place et se penche sur le projet d'aéroport. Un homme, notamment, mène la bataille. Il s'appelle Alphonse Fresneau et il vit dans cette ferme où se succède sa famille depuis 5 générations, en plein dans la zone concernée. Alors pour lui, pas question de partir. À cette même époque, l'aéroport de Roissy est sorti de terre. Il décide donc de s'y rendre pour enquêter, savoir comment la construction s'est déroulée. À son retour, il partage ses informations, les témoignages des habitants sur les ventes de leurs terres ou les nuisances. Alphonse Fresneau renseigne et il convainc. En 1972, le comité de défense devient l'ADESA, ou l'ADECA, pour association de défense des exploitants concernés par l'aéroport, et une première manifestation est organisée. 2 ans passent, et le 11 janvier 1974, le site de Notre-Dame-des-Landes est confirmé, et une zone d'aménagement différée, une ZAD, est créée. Une décision qui octroie au conseil départemental un droit de préemption sur les terres qui composent la zone en question. Eh bien, c'est à partir de là que se dessine une ligne de fracture entre deux camps, les pros et les anti-aéroports. Les premiers défendent l'attractivité, le dynamisme qu'une telle opportunité représente pour la région, emploi, entreprise, aménagement. Pratiquement toutes les mairies concernées sont pour. Elles y voient une opportunité pour le développement de leur commune avec des rentrées fiscales importantes, ce qui n'est pas le cas, bien sûr, de l'ADECA qui, elle, s'oppose au projet et défend l'importance des terres agricoles et dénonce la nuisance sonore urbaine. Mais petit à petit, le travail d'information et de médiatisation fait pencher la balance du côté des opposants, soutenus par un certain nombre de maires. On en est là, quand la France est frappée par le choc pétrolier de 1973, puis par celui de 1979. Fini l'illusion des Trente Glorieuses, place à la crise et au chômage. Alors, à Notre-Dame-des-Landes, tout s'arrête. Le projet d'aéroport n'est plus une priorité. Il tombe dans l'oubli et sur le bocage nantais, la vie reprend tranquillement son cours. Mais comme un feu mal éteint, voilà que 2 décennies plus tard, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ressurgit.
Alors maintenant, une question quasi métaphysique, Jean-Marc Ayrault. Est-ce que vous croyez à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, cette arlésienne dont on parle depuis des années, dont les politiques disent que ça y est, c'est parti? Alors, est-ce que vous y croyez?
Moi, je crois au développement de l'Ouest, du Grand Ouest, et en particulier dans le Grand Ouest, au développement de la métropole Nantes-Saint-Nazaire. Et c'est clair que pour l'Ouest, la question fondamentale, c'est le désenclavement. Et les liaisons vers toute l'Europe et le monde entier. Et donc, c'est clair qu'il faudra demain un grand aéroport à Notre-Dame-des-Landes.
En cette fête d'année 1999, Jean-Marc Ayrault, maire socialiste de Nantes depuis 10 ans, le sait. Les planètes sont enfin alignées pour relancer ce projet auquel il tient depuis de nombreuses années. La France est gouvernée depuis 3 ans par la gauche plurielle de Lionel Jospin, qui en octobre 2000 annonce plusieurs aménagements importants, dont celui de la métropole nantaise, fer de lance de la nouvelle urbanisation et berceau du futur aéroport Notre-Dame-des-Landes. Seulement voilà, l'époque n'est plus la même. Après le modernisme des Trente Glorieuses, l'heure est désormais à la croissance verte. Comme un symbole, c'est une écologiste, Dominique Voynet, qui est ministre de l'aménagement du territoire de ce gouvernement Jospin. Alors, on met au point une nouvelle présentation de Notre-Dame-des-Landes, version 2000, un projet qui se veut présentable. Le principal argument repose sur la saturation de l'aéroport principal. La croissance du trafic à Nantes va forcément exploser avec le dynamisme de la région Ouest, où il manque un aéroport d'envergure internationale. Ainsi, il faut absolument une seconde piste. C'est comme ça. Derrière ce projet, on défend aussi l'incroyable impact sur l'emploi, avec près de 3000 créations de postes directs pour le chantier de l'aéroport, puis un nombre équivalent pour les emplois fixes, sans compter les autres retombées d'activité. Mais, comme il faut bien verdir son discours, on promet de reconstituer certaines zones à la biodiversité, ailleurs, en remplacement de Notre-Dame-des-Landes, et on assure que les nuisances seront moindres, car il s'agit de la zone plus éloignée des habitations. Il n'en fallait pas plus pour réveiller la DECA, cette association qui s'était créée dans les années 70 contre le projet, justement. Et comme un symbole, parmi les opposants, on retrouve Sylvain Fresneau, le fils d'Alphonse Fresneau, qui a pris la suite de l'exploitation familiale et qui reprend tout naturellement le flambeau de la lutte.
Quand moi j'ai voulu m'installer en exploitation, il y avait la ferme de mes parents qui était sur la ZAD. On s'est installé en GAEC avec mes parents. J'allais pas les laisser tomber pour aller m'installer autre part. Pour quelle raison d'ailleurs ? C'est l'exploitation familiale qu'on a continuée, qui date de mes parents, grands-parents et tout ça. J'allais pas tirer un coup de crayon sur une soi-disant hypothèque d'un futur aéroport qui n'a rien été prouvé, quoi. Comment ne pas être en colère ? C'est quand même une zone d'activité très importante. C'est un bassin laitier qu'on est en train de fiche en l'air. Et qu'est-ce qu'on va devenir ? Qu'est-ce que va devenir ce bassin laitier du département, quoi ?
Novembre 2000, un mois seulement après l'annonce officielle de la relance du projet, une ambiance inhabituelle agite la petite salle des chênes à Notre-Dame-des-Landes. 200 personnes se retrouvent pour la première réunion d'une nouvelle association, la CIPA, pour Association Citoyenne Intercommunale des Populations Concernées. Cette nouvelle structure illustre la transformation du territoire. C'est que, en 30 ans, Notre-Dame-des-Landes et ses environs ont bien changé. Là où on ne comptait que 15 000 habitants, ils sont désormais 80 000. En plus des fermes et des petits hameaux, il y a maintenant des zones pavillonnaires. Du côté des opposants, également, on a affiné ses arguments. À l'augmentation du trafic, ils répondent que le seuil où cela se justifierait serait, dans les meilleures projections, en 2050. Et encore, cette prévision oublie le train, dont les lignes à grande vitesse sont censées se développer et réduire mécaniquement le transport aérien. Et puis surtout, les opposants dénoncent l'hérésie écologique, car il s'agit là d'une zone humide, donc avec de nombreuses espèces et une riche biodiversité. Le bocage est désormais considéré comme un patrimoine essentiel. En mars 2001, une première manifestation sur la ZAD est organisée. Elle réunit 350 personnes. Entre 2002 et 2003, un débat public est mis en place et de nombreuses réunions sont mises en route. Tout cela débouche sur quatre options. Trois sont contre l'aéroport, une pour. Mais le rapport indique aussi les votes effectués auprès des instances locales. Conseil régional, communauté urbaine de Nantes et conseil général, réponse majoritaire, pour. Le pays réel est contre, le pays légal est pour. Et donc, le projet suit son cours. Au rythme lent des grandes infrastructures étatiques, d'autant plus que les opposants usent de tous les moyens législatifs et juridiques à leur disposition pour le ralentir. Le 29 juin 2005, nouvelle étape. Une entreprise doit effectuer des forages sur les sols. Sur place, elle trouve face à elle des opposants qui bloquent l'intervention. C'est la première opposition physique sur le site de Notre-Dame-des-Landes. Mais la région et l'État avancent. En 2006, une première enquête publique est organisée. Elle aboutit l'année suivante à un avis favorable pour la construction de l'aéroport, alors même que 67% des avis exprimés y sont défavorables. Eh bien, tant pis pour eux. La déclaration d'utilité publique est publiée en 2008 et elle permet les premières expropriations.
La DUP, c'est une étape dans leur idée de Grenelle pourrie, là. De toute façon, c'est pas du tout synonyme que l'aéroport se fera.
Vous savez, c'est un processus administratif qui finit par aboutir à une DUP. Voilà, on est arrivé à la DUP, mais c'est pas une fin en soi. Nous, on continue de se battre, on est même plus mobilisés.
Bah, le dossier a des failles. Des failles énormes, puisqu'on doit proposer des alternatives à un projet, toujours. Et il n'y en a pas eu dans ce projet. C'était Notre-Dame-des-Landes ou Notre-Dame-des-Landes.
Moralité, il faut renforcer la lutte. D'abord, Sylvain Fresneau, toujours en première ligne du combat avec la DECA, met à disposition un hangar de son exploitation pour les rencontres et l'accueil des médias. Situé au centre de la ZAD, la Vacherie alors ça s'écrit vache et riz comme vache qui rit, comme elle est rebaptisée, devient le premier point de rassemblement des opposants. En août 2009, une grande manifestation est organisée sur le modèle qui se développe un peu partout en Europe, et notamment en Angleterre, contre l'aéroport Heathrow, un camp Action Climat. À cette occasion, Notre-Dame-des-Landes voit s'élargir le nombre de ses soutiens et leur diversité. L'association historique ADECA et celle des citoyens est rejointe par une coordination des associations anti-aéroports et des organisations paysannes extérieures à la zone. Le collectif Les Naturalistes en Lutte se lance, lui, dans l'étude écologique détaillée de la ZAD. Des représentants politiques rejoignent le combat avec le CEDPA. Alors là encore, un jeu de mots, CEDPA. Il s'agit du collectif des élus qui doutent de la pertinence de l'aéroport. Ainsi, les opposants locaux sont-ils rejoints par des militants écologistes venus d'un peu partout et des jeunes autonomes, anarchistes ou sensibles à l'autogestion. Émerge alors l'idée de rester ici, oui, d'occuper le terrain, occuper la zone et la défendre. Les associations historiques de la lutte contre l'aéroport donnent leur accord.
Nous appelons donc toutes les personnes et les associations opposées à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes à mettre en place un projet de campement d'occupation sur les terrains que se sont injustement appropriés les promoteurs de cet aéroport aberrant et mortifère.
Un premier squat est créé. Les nouveaux venus s'installent dans la dizaine de fermes et de maisons expropriées de la ZAD. Et soudain apparaît un mot. La zone d'aménagement différé, rebaptisée zone à défendre, donc ZAD. Derrière ce mot nouveau, ce nouvel acronyme, c'est aussi une réalité nouvelle et originale qui se crée ici. Autrement dit, la convergence d'opposants et de militants d'horizons totalement différents. Et tout à coup, une nouvelle forme de lutte s'installe, avec occupation des lieux concernés, démonstration en acte d'une autre manière de s'opposer et de vivre, casier autonomie énergétique, démocratie directe par consensus, absence d'incarnation et de leader. C'est le rêve originel anarchique, pas de rapport de domination. Alors évidemment, il y a des tensions entre ces différents groupes. Mais chacun comprend ce que l'autre peut lui apporter et tous sont soudés autour de l'opposition au projet qui, lui, continue d'avancer comme si de rien n'était. Et c'est l'entreprise Vinci qui remporte la concession de l'aéroport fin 2010. Un an plus tard, la présidentielle approche. Il faut faire pression. Le 24 mars 2012, une immense manifestation est organisée à Nantes.
Face au déploiement policier, les anti-aéroports appelaient à un rassemblement festif et familial, appel entendu et pari gagné, celui de la mobilisation. Jamais une manifestation contre Notre-Dame-des-Landes n'avait réuni autant de personnes à Nantes, entre 3000 selon la préfecture et 10 000 pour les organisateurs.
Les lignes ont bougé là et on ne pourra pas faire sans nous, sans les opposants à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. On a reçu en début de semaine notre avis d'expropriation. Mais aujourd'hui, on est là et les gens sont venus nous soutenir. On a passé des coups de fil, ça s'est mobilisé. Moi, je comptais sur 100 tracteurs, on est 200, 220.
Des agriculteurs qui ont pris la tête du cortège, long de 4 km dans le centre de Nantes. Ils ont dit non à la disparition de près de 2000 hectares de terre autour du futur aéroport. Un projet qu'ils espèrent toujours enterrer.
Du côté des défenseurs du projet, les bétonneurs et l'État, on commence à comprendre que ça ne va pas être simple, cette affaire-là. D'autant que l'alliance locale entre les agriculteurs et les militants donne une nouvelle dimension à la lutte. Elle devient populaire et prend une ampleur nationale. Quelques semaines après la manifestation, 4 agriculteurs menacés par le projet lancent une grève de la faim. Au bout de 28 jours, ils obtiennent la suspension des expropriations. Le vent semble avoir changé de direction. L'aéroport s'éloigne à mesure que la lutte locale prend de l'ampleur. Et pour les promoteurs, il est temps de réagir. C'est comme ça que le tranquille bocage nantais va devenir le théâtre d'une lutte historique.
Il existe un endroit où les hommes parlent comme les oiseaux. El Silbo en écho. amarré au nuage. Un guanché siffle pour s'inviter à dîner. Au menu, un mojo piquant qui monte aux yeux. Et à nouveau, un sifflement pour se dire adieu. Agile, les jambes arquées, on ne le distingue dans l'argile que par le son de son sifflet. La lucha canaria, pour protéger son île, el silbo, pour braver la guardia civile.
Vous écoutez Affaires Sensibles, aujourd'hui le dossier de Notre-Dame-des-Landes.
Affaires Sensibles sur France Inter.
Alors autour de nous, des tentes, des caravanes, qui s'est installé ici?
C'est des personnes qui veulent participer à la lutte contre le projet de construction d'aéroport. Et donc on s'est installé là pour passer l'hiver au moins. On s'appelle zadiste. Le terme ZAD, ça veut dire à la base zone d'aménagement différé. On a requalifié en zone d'autonomie durable ou zone à défendre, et donc des zadistes.
16 octobre 2012, en France, le président est socialiste, François Hollande, et son premier ministre n'est autre que Jean-Marc Ayrault, maire historique de Nantes, grand défenseur depuis une dizaine d'années de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Hasard ou coïncidence, quelques mois seulement après leur arrivée aux commandes, le sujet de cette ZAD devient prioritaire. Oui, il faut régler cette situation. Ayrault s'appuie sur l'état de droit, la légalité. Une déclaration d'utilité publique a été décidée. L'occupation du terrain par les opposants devient donc illégale. Ainsi, ce 16 octobre 2012, le jour se lève à peine quand 1200 gendarmes, lourdement équipés de machines de chantier et d'engins de destruction, lancent l'opération César pour en finir avec cette ZAD. Mais informés depuis quelques jours, les zadistes se sont préparés. Que trouve-t-on d'ailleurs sur cette zone à défendre? En 3 ans, elle a bien évolué. Ils sont environ 80 à occuper une quinzaine de maisons en dur et une vingtaine d'habitats légers. Des cultures et productions maraîchères, un élevage de chèvres, une boulangerie, la radio klaxon qui s'invite sur la bande FM de la radio Vinci Autoroute ou encore un site internet qui voit le jour. On trouve un free shop avec des vêtements en accès libre, un marché à prix libre, un dortoir pour les visiteurs et ici. Tout le monde s'appelle Camille, un prénom neutre qui abolit les genres, qui permet de ne pas être identifié par la police et qui empêche aussi l'incarnation de la lutte. C'est devenu le plus grand squat à ciel ouvert d'Europe, une véritable contre-société, une autre manière de vivre qui visiblement ne plaît pas au ministre socialiste de l'Intérieur, un homme qui n'aime rien tant que les uniformes, l'ordre et la sécurité, Manuel Valls.
Il est hors de question de laisser un kyste s'organiser, se mettre en place, durable, avec la volonté de nuire, avec des moyens qui parfois sont dangereux pour les hommes, que ce soit ceux qui occupent ou ceux qui sont là pour faire respecter la loi. Et donc nous mettrons tout en œuvre pour que la loi soit respectée. L'état de droit, c'est le respect des décisions de justice.
Obéissance à la loi, dispersez-vous.
Ce kyste, comme dit Valls, se structure notamment autour d'une route départementale devenue emblème mythique et stratégique, la RD 281, la fameuse route des chicanes, barricadée et sur laquelle se retrouvent bloquées les forces de l'ordre. Ainsi, pendant plusieurs semaines, Notre-Dame-des-Landes devient un champ de bataille. Et on assiste à des scènes hallucinantes, entre d'un côté des forces de l'ordre suréquipées, et de l'autre des occupants qui se mettent nus et s'allongent par terre, se réfugient dans les arbres, pour obliger la maréchaussée à les déloger. C'est qu'ils connaissent bien le terrain, ils ont élevé des barricades, et les agriculteurs aident avec leurs tracteurs. Les Medic Team et les Legal Team forment, eux, les militants au bon geste. Et rapidement, d'autres viennent en soutien, de partout, chaque jour, pour défendre la ZAD. Ils apportent des vêtements, de la nourriture, ils aident à reconstruire. Face à l'opération César, une manifestation est organisée sur le site le 17 novembre 2012. Baptisée Opération Astérix, elle réunit des manifestants de toute la France. Près de 400 tracteurs et une quinzaine de cars sont de la partie. Au total, on comptera environ 40 000 personnes. Les politiques s'y joignent, avec des figures nationales comme Eva Joly ou Jean-Luc Mélenchon, qui profite de l'occasion pour se démarquer du Parti Socialiste et de la présidence Hollande.
Jean-Marc Ayrault est très archaïque, c'est très daté sa crispation. Cette manière qu'ils ont, lui et le président de la République, de dire « c'est comme ça et pas autrement, de toute façon, tous les recours sont épuisés ». Mais non, ça continue.
Le gouvernement pensait avoir bouclé le dossier de Notre-Dame-des-Landes. La forte mobilisation aujourd'hui a tenu à lui rappeler que tout n'est pas joué.
Oui, l'objectif de cette manifestation, c'est d'intensifier la lutte. En deux jours, de nombreuses constructions voient le jour. Pendant plusieurs semaines, l'opposition continue de plus en plus violente. Les manifestants reconstruisent et occupent de nouveau le terrain, pendant que les forces de l'ordre détruisent ou bloquent. La répression est judiciaire, 200 interpellations, 71 procès, 13 interdictions de territoire. Elle est aussi physique. Les flashballs et les grenades lacrymogènes font de nombreux blessés. Mais bientôt, le gouvernement est obligé de céder. La lutte est trop populaire et son organisation est un succès. D'un combat local, Notre-Dame-des-Landes est devenue une cause nationale. Et des dissensions apparaissent dans la coalition gouvernementale, notamment avec les écologistes. Alors changeons de braquet. Fini la force, place à la discussion. Une commission de dialogue est lancée et les travaux sont suspendus pour 6 mois. Mais sur place, la lutte continue. C'est-à-dire qu'on occupe de nouveau.
On monte des projets parce que ça nous tient et parce qu'on a envie d'occuper l'espace et de se réapproprier ces terres qui servent à faire de la bouffe à la base. Moi je vois le côté positif, c'est que du coup on devient vraiment des... Enfin moi ça doit être la 5 ou 6e cabane de ma vie que je construis. Hein. Du coup je commence à être pas mal balèze. J'ai construit au sol, dans les arbres, maintenant c'est dans un hangar, pourquoi pas tu vois. On devient des pros de la construction éphémère. Du coup on sait aussi très bien que ça peut être détruit du jour au lendemain, on l'a déjà vécu et on le revivra, ça fait mal, c'est dur mais en fait on le sait en fait.
Et du coup, t'as un petit côté maso.
De toute façon, faut être maso pour pas être résigné. On se plie pas à ce qu'ils voudraient qu'on soit. Donc forcément, ce qu'on fait, ils vont détruire. Enfin, on s'expose à la répression, mais on préfère être maso qu'être résigné et à rentrer dans le moule, quoi.
Le 9 avril 2013, la commission du dialogue rend son rapport qui défend l'utilité de l'aéroport. Mais il émet toutefois 2 réserves, ce qui repousse encore le projet. Et Vinci, cette immense pieuvre capitalistique que vous voyez partout, autoroute, parking, construction, fulmine. En vérité, une nouvelle période s'ouvre, inaugurée par l'opération Semtazad, lancée les 13 et 14 avril 2013, ainsi qu'une chaîne humaine géante le 11 mai. Le combat se poursuit, se prolonge, s'intensifie. Une bibliothèque et une tour de guet sont construites. Des intellectuels, des artistes, des militants de France et de l'étranger viennent sur la ZAD. Petit à petit, ce lieu devient une référence, un territoire des possibles où quelques centaines de personnes, en harmonie avec la population locale, inventent une nouvelle manière de vivre et de faire société, le tout en conflit ouvert avec l'État. Cercle vertueux de la lutte, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes inspire d'autres lieux, d'autres combats. Parfois, elle se termine en tragédie, comme à Sivens, en 2014, avec la mort de Rémi Fraisse. Mais le contexte évolue. Les rapports du GIEC, la COP21 en 2015, les grands changements climatiques. Chaque jour, un peu plus, l'urgence écologique s'impose et renforce la légitimité du combat contre un aéroport supplémentaire. Il va dans le sens de l'histoire. Alors en face, le gouvernement lui aussi change de tactique. Après le résultat positif de la commission dialogue, il enchaîne avec la réponse aux différentes enquêtes soulevées. Il approfondit son projet avec un aéroport dessiné en forme de bocage, donc intégré au paysage, prenant en compte les logiques écologiques. Vinci, de son côté, passe à l'offensive et assigne en justice les habitants et agriculteurs historiques qui vivent sur la ZAD. L'État, lui, inlassablement continue ses efforts pour convaincre et appuyer la légitimité du projet. En 2015, un référendum est organisé à l'échelle de la région Loire-Atlantique.
Notre-Dame-des-Landes se réveille au lendemain du référendum. Beaucoup d'habitants ne souhaitent pas s'exprimer.
Vous voulez pas nous répondre ?
Ceux qui acceptent sont tous déçus que le oui l'ait emporté.
C'est la merde.
Pourquoi c'est la merde ?
Parce que l'aéroport, ça ne nous intéresse pas. On n'est pas venu à la campagne pour s'embêter avec des nuisances pareilles. Je suis contre depuis 50 ans. Je serai toujours contre.
Hier pourtant, les pro-aéroports exultent. La victoire du oui est sans appel. La majorité des communes de Loire-Atlantique se sont prononcées en faveur de la construction d'un aéroport à Notre-Dame-des-Landes.
Le peuple s'est exprimé, on est le peuple, et donc les travaux doivent commencer.
Mais le camp adverse ne s'avoue pas vaincu. Sur la ZAD, zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes, toujours la même mobilisation, la même détermination à s'opposer à l'aéroport.
Nous n'allons pas cesser pour autant d'habiter, de cultiver et de protéger ce bocage.
Victoire nette du oui, 55,17%. Participation importante, 51%. Jean-Marc Ayrault triomphe. L'évacuation se fera. Sur la ZAD et dans les associations, on s'empresse de dénoncer la disparité du résultat et surtout les conditions du référendum. Par exemple, les communes du nord de Nantes, concernées par le projet, sont à majorité contre, pendant que celles du sud, qui en bénéficieront avec le déplacement du trafic aérien, sont pour. Et puis il y a les conditions du référendum, les opposants dénoncent une question qui était posée de manière à favoriser le oui. La réponse des opposants est immédiate, 60 000 personnes manifestent à Nantes. Parce qu'il faut tenir. Les élections arrivent bientôt. Il faudra mettre la pression sur un nouveau gouvernement. Pendant la campagne présidentielle, évidemment, Notre-Dame-des-Landes est un sujet sur lequel il faut se positionner. Emmanuel Macron la joue en même temps. Autrement dit, il lancera une médiation. Élu président, c'est effectivement ce qu'il fait. Composée de 3 experts, elle se distingue des autres formules mises en place précédemment, car elle prend en compte la possibilité d'abandonner le projet pour le basculer vers un nouvel aménagement de l'aéroport de Nantes déjà existant. Le 13 décembre, le compte-rendu ne privilégie aucune solution et se contente de proposer plusieurs scénarios. C'est donc au gouvernement de choisir. Le 17 janvier 2018, le Premier ministre Édouard Philippe se présente devant les journalistes.
Je constate aujourd'hui que les conditions ne sont pas réunies pour mener à bien le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Notre-Dame-des-Landes, aujourd'hui, c'est l'aéroport de la division. Le projet de Notre-Dame-des-Landes sera donc abandonné.
Le gouvernement a annoncé enfin officiellement l'abandon du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes.
La victoire de Notre-Dame-des-Landes est historique. Pendant plusieurs jours, une incroyable ambiance de fête gagne bocage entre les zadistes, les agriculteurs, les élus locaux et les soutiens dans toute la France et venus de l'étranger. Mais très rapidement, une question se pose. Et après ? Que faire de cette autre société qui s'est installée, construite, imaginée et transmise ? Pour beaucoup, il faut continuer à occuper et défendre cet espace. Des dissensions apparaissent, mais cette fois, elles n'ont plus le projet d'aéroport comme point rassembleur. La majeure partie des ex-opposants propose une gestion collective de la ZAD, comme ce fut le cas dans la lutte du Larzac, après la victoire des opposants en 1981. Le gouvernement s'y oppose et souhaite des projets agricoles individuels. Et surtout, il ne doit pas perdre la face. Largement critiqué pour avoir abandonné le projet cédé aux zadistes par une partie du Parti Socialiste, la droite et l'extrême droite, il veut montrer sa fermeté dans l'évacuation.
Michel habite, ou plutôt habitait, les sans nom. L'arrivée de l'huissier ce midi l'a sidéré.
Il nous a dit qu'on avait 10 minutes pour faire nos affaires et partir. 10 minutes. Nous, ça fait 5 ans qu'on habite ici. Il nous donne 10 minutes pour partir.
Vous n'avez pas de sens de la valeur des choses, la valeur du travail.
Parce que nous, on a le sens du travail ici, de la valeur du travail. Faut pas croire ce qu'on dit. À la ZAD, on n'est pas des branleurs.
La colère, la rage, l'émotion de Michel, alors que son lieu de vie était sur le chemin de la régularisation.
En fait, tout ce qu'on a construit ici, c'est rien. Ça compte pas. Ça doit être dégagé. Tout le travail qu'on a mis là, de manière désintéressée, ou intéressée juste par le fait que ça nous plaît, que ça nous passionne et qu'on voit du sens à ça, tout ça, non. Ce travail, il a pas de valeur. Et après, on dit que c'est nous qui n'avons pas le sens de la valeur travail. C'est incroyable. Je comprends pas ce renversement des choses.
Lors de son intervention, Édouard Philippe promet à des journalistes qu'ils n'entendront plus parler de Notre-Dame-des-Landes. De fait, le radar de l'actualité s'est déplacé vers d'autres territoires, d'autres combats. Mais au-delà d'avoir inventé une expression et un moyen d'action, la ZAD, la lutte de Notre-Dame-des-Landes, a montré par sa durée, sa convergence des oppositions, sa manière de manier le légal et l'illégal, la désobéissance civile et l'occupation des terrains, comment pouvait être remporté un combat écologique face à l'état de droit, et qui pose aussi cette question fondamentale, plus que jamais d'actualité, jusqu'où peut et doit aller la légalité politique face à la légitimité écologique. Aujourd'hui, le dossier Notre-Dame-des-Landes, notre invité Hervé Kempf, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et écrivain, directeur de la rédaction de Reporter, et vous êtes l'auteur du livre intitulé Notre-Dame-des-Landes, publié aux éditions du Seuil, une lutte que vous avez suivie de près. D'abord, pouvez-vous revenir sur votre découverte, la première fois que vous êtes rendu sur le site devenu ZAD? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce que vous avez observé?
D'abord, c'était totalement par hasard. J'étais à Nantes et des amis ou des associations m'ont dit « Il faudrait que tu viennes, il y a au nord de Nantes une lutte tout à fait importante. » J'étais à l'époque journaliste chargé de suivre les questions écologiques au journal Le Monde. Donc évidemment, j'ai dit « Oui, j'ai le temps, allez, je viens l'après-midi. » Et là, j'avais rencontré avant la ZAD Michel Tarin. C'était en 2008, donc en fait, c'était un petit peu avant que la ZAD prenne vraiment ses marques. Et Michel Tarin était un des opposants paysans de longue date, qui m'a expliqué. Je me rappelle très bien dans son petit pavillon du côté de Vimieux, il étale sa carte, il m'explique avec une force de conviction et en même temps une précision extrême ce qu'il était en cause. Et là, je me rends compte en discutant avec les uns et les autres que oui, il y a un sujet journalistique tout simplement qu'il faut raconter. Et à partir de là, j'ai continué à suivre sa tente très attentivement. Ça s'est révélé effectivement un des sujets, un des dossiers écologiques ou environnementaux extrêmement importants, et je ne l'ai quasiment plus lâché depuis cette époque.
Quel regard vous avez posé sur la micro-société que ces gens ont construite avec leurs valeurs alternatives, sans rapport de domination, sans incarnation?
D'abord, c'était extrêmement touchant, extrêmement interpellant même. C'est pas seulement touchant, c'est très interpellant. Oui, il y avait vraiment cette volonté des zadistes et des jeunes de vivre, c'est dit, un moment du reportage sans hiérarchie, en respectant parfaitement l'égalité genrée, en évitant les rapports de domination, en étant enracinés dans le sol et en vivant aussi avec une très grande sobriété. Ce qui est important, c'est des gens qui sont vraiment écolos dans leur façon de vivre, de réduire la consommation matérielle. Donc ça, c'était tout à fait fascinant, parce qu'on se dit, à chaque fois que je sortais de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, bon, généralement j'y allais en voiture, de location ou depuis la gare, et la ZAD était, et c'est encore maintenant, un lieu totalement différent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme c'était une zone d'aménagement différée, l'État a bloqué le remembrement, a bloqué l'évolution de ce lieu. Donc alors que partout ailleurs, la campagne de la Loire-Atlantique et de l'ouest de ce pays de Loire est mitée, est remembrée et artificialisée, là, il y a un lieu sur 10 km² qui est dans sa nature. Et quand je sortais de là et que je revenais sur l'autoroute ou l'espèce d'autoroute qui conduit à Nantes en voyant les entrepôts, les maisons, etc., j'avais toujours un moment en me disant, mais la vraie vie, c'est laquelle? Est-ce que ça n'est pas là d'où je viens? Alors, au bout de 20 minutes, je me rendais compte que la vraie vie, hélas, j'allais dire, c'était là où je revenais, mais voilà, il y avait ça. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est pas seulement les zadistes. C'est qu'il y a eu, dans cette lutte et dans tout ce travail, et le reportage, enfin, votre travail en rend bien compte, c'est aussi une alliance, en fait.
Et c'est ça, je vais vous dire, l'alliance entre les zadistes et les agriculteurs locaux, elle est là, la recette du succès, à votre avis?
Elle est absolument... on va voir de quel succès on parle, mais oui, elle est là.
C'est fermé, quand même, ça.
Oui. Et puis surtout, c'est l'alliance, et non seulement avec les paysans, mais avec des experts, mais avec des élus locaux, mais avec des associatifs qui militaient à l'ancienne, j'ai envie de dire, avec des gens qui disaient, moi je fais la grève de la faim, vous l'avez cité à un moment, parfois il faut aller aller dans la confrontation si la police vient nous envahir et veut nous... Voilà, il y avait toute cette alliance de gens totalement différents, de générations différentes, de cultures différentes. Et ce qui est merveilleux aussi, et c'est pour ça que c'était très fort, c'est que tout ça, je dirais pas coagulait, mais s'entendait.
Quand on nous demande la ligne éditoriale d'Affaires Sensibles, moi j'aime répondre qu'on explore les allées du passé pour en traquer les résonances. Et alors là, il y a une résonance, je trouve, avec l'affaire du Larzac. Ce sont les mêmes forces sociales qui se mobilisent, pour les mêmes raisons.
Oui, alors moi j'étais très petit, enfin j'étais adolescent au moment du Larzac, et donc c'est un
mais
peu
moi
moins...
Aussi, mais moi aussi, mais on s'en souvient quand même, d'un point de vue historique.
Oui, oui, on retrouve beaucoup de choses. Il y avait quand même avec Notre-Dame-des-Landes et les luttes qui ont suivi, parce que moi je vois plutôt Notre-Dame-des-Landes comme une matrice pour la suite, il y avait effectivement ce que vous dites, cette alliance entre des paysans au Larzac et des gens venus de l'extérieur avec notre culture, comme l'était par exemple José Bové au début, la capacité aussi à entraîner une opinion public national sur un sujet très local. En revanche, il y avait une confrontation peut-être avec la police et avec l'État moins dure, parce que il me semble que dans la conflictualité du Larzac, et ça a duré de longues années, même si l'État a été dur, il était moins violent et moins brutal que ça n'a été le cas, hélas, à Notre-Dame-des-Landes et dans d'autres luttes ensuite.
Hervé Kempf, la question de la violence policière a marqué profondément la première intervention lors de l'opération César. Ça nous renvoie notamment à l'affaire de Sainte-Soline. En mars 2023, on écoute, on en parle ensuite.
Il est 14h52, lorsque les secours sont prévenus qu'un manifestant est dans un état d'urgence absolue. Il est pris en charge 1h30 plus tard, à 15h15, par le SAMU. Un délai beaucoup trop long pour la Ligue des droits de l'homme, qui publie aujourd'hui cet échange téléphonique avec un opérateur du SAMU.
Leurs observateurs sur place disent que c'est calme depuis 30 minutes et que donc il est possible d'intervenir.
Je suis d'accord avec vous, vous n'êtes pas le premier à nous le dire. Le problème, c'est que c'est à l'appréciation des forces de l'ordre et qu'on est sous un commandement qui n'est pas nous.
Vous confirmez que vous avez interdiction d'intervenir, alors vous avez...
On n'a pas l'autorisation d'envoyer des secours sur place parce que vous êtes considéré comme étant dangereux sur place.
Par communiqué, la Ligue des droits de l'homme va encore plus loin.
Plusieurs cas d'entrave par les forces de l'ordre à l'intervention des secours ont été constatés.
Hervé Kempf, est-ce qu'on peut faire un parallèle avec Notre-Dame-des-Landes ?
Oui, tout à fait. Et le parallèle que je ferais, c'est le délire de l'État presque policier dans lequel nous sommes maintenant. Il y a eu à Notre-Dame-des-Landes l'opération César, dont on a eu l'écho dans votre travail. Il y a aussi eu, en avril 2018, une invasion policière, une intervention policière extrêmement violente sur Notre-Dame-des-Landes. Entre-temps, il y avait eu à Sivens, pour un projet de bassine qui, depuis d'ailleurs, a été abandonné, l'homicide d'un jeune écologiste, Rémi Fraisse, par une grenade de gendarme. Il y a eu Sainte-Soline l'année dernière, qui est très violente. À nouveau, en ce moment même, aujourd'hui même quasiment où je vous parle, il y a une bagarre contre la 69.
Enfin, je vous arrête, on va y aller.
Ah, très bien.
Dans cet univers-là, on y va maintenant. Ben,
bravo. Ah pardon.
On y va.
Ok.
A-t-on besoin d'une autoroute de plus ? Dans le Tarn, le projet de l'A69 déchaîne les passions entre militants écologistes et automobilistes qui aimeraient bien relier Castres à Toulouse un peu plus rapidement. Ce week-end, des milliers d'opposants ont décidé de converger vers un chantier pourtant déjà bien avancé et fortement protégé. Ils y voient un projet inutile et dépassé vu l'état de notre climat et de notre planète.
Pourquoi vous opposez à cette autoroute ?
C'est, comment dire, un projet qui va défigurer complètement le paysage, qui n'apporte absolument rien.
Moi, ce qui me touche le plus, c'est qu'on détruit la nature. Mettre du béton partout, c'est pas l'avenir dont j'ai envie.
L'heure est pas à la destruction des terres qui devraient être pour les paysans et pour la nourriture, pas pour les intérêts marchands de quelques-uns.
La 69, ce sera donc une 4 voies qui offrira une alternative à l'actuelle RN126 entre Castres et Toulouse.
Hervé Kempf, je vous ai coupé, mais pour la bonne cause, donc là, encore un parallèle.
Formidable, et merci d'en avoir parlé, parce que c'est une bataille qui continue en ce moment. Il faut dire, au bout d'un moment, le paradoxe total. L'État devrait être porteur du bien commun. Il devrait être porteur de l'intérêt général. Et qu'est-ce qu'il fait, alors qu'on parle de catastrophe climatique, qu'aujourd'hui même, il y a un typhon énorme en Chine, qu'il y a eu des inondations énormes en Europe centrale, qu'il y a la sécheresse à d'autres endroits, etc., qu'on devrait mettre la priorité sur ces questions. préserver les terres agricoles, éviter d'émettre des gaz à effet de serre. On fait des autoroutes, on voulait faire des aéroports, on veut faire des méga-bassines. Tout ça n'a aucun sens. Et pourquoi on tue les gens? Je reviens aux méga-bassines. C'était terrible l'année dernière. C'était en 2023, oui. Et moi, je me rappelle, il y avait il y a eu des milliers de gens qui n'étaient pas du tout des casseurs ou quoi que ce soit, contrairement à ce que voulait dire Monsieur Darmanin, mais qui étaient des gens. Et il y a un camarade qui est revenu, mais qui est presque en pleurs. Et qui m'a dit, mais j'allais pour sauver l'eau, pour protéger l'eau, et on m'envoie des grenades lacrymogènes. Là, la 69, c'est des centaines d'hectares de terres agricoles qui sont bétonnées, c'est une autoroute qui n'a aucun sens économique et qui est climatifiée, il faut arrêter ça. Donc voilà ce que ça m'inspire, c'est l'espèce de... C'est les zadistes qui ont raison, vous voyez. Il y a une très belle phrase dans votre reportage ou dans votre travail d'archive, pardon.
Récit.
On ne se plie pas à ce qu'il voudrait qu'on soit. Ouais. Et c'est beau ce que dit cette jeune fille, et je crois que quel que soit l'âge, on a envie de dire ça, et on ne veut pas qu'il nous fasse aller sur des autoroutes, sur ce monde détruit, etc.
C'est le fameux conflit entre le droit et la morale. L'état de droit n'est pas moralement écologique.
Oui, et puis l'état de droit n'est plus dans son droit. Voilà, moi ça me frappe beaucoup. Je vais reprendre un exemple sur la 69. On a documenté à Reporter le fait que il y a des vigiles, des sociétés privées qui viennent à, frapper des opposants. Là, le préfet devrait dire non. L'état de droit, c'est des vigiles. Des sociétés de sécurité privées n'ont pas le droit d'aller frapper les gens. Il y a des règles et des lois là-dessus. Ils doivent dire, nous signalons à la gendarmerie que telle personne que nous avons identifiée est sur un terrain privé, éventuellement. Mais en aucun cas, ils ne doivent venir frapper ou lancer des mortiers comme ils l'ont fait. Et qu'est-ce que fait le préfet du Tarn? Voilà la question. Donc le problème, c'est qu'ils ne sont pas dans l'état de droit. L'état actuel ne respecte plus l'état de droit bien souvent. Et c'est ça qui est très problématique.
Et comment expliquez-vous la décision d'Emmanuel Macron de mettre fin au projet?
Eh bien,
ça m'a surpris quand même.
Oui, en même temps, ça s'appelle un rapport de force. Il faut être clair, c'est que quand c'est une lutte forte, eh bien, je pense qu'en plus Emmanuel Macron était encore à l'époque au début de son mandat présidentiel. C'était le premier. Il a très bien compris que c'était une affaire totalement merdique, si vous me pardonnez ce défaut de langage. Et il s'est dit, ok, je lâche l'affaire, je vais pas m'embarrasser avec ça. Voilà. Bon.
Pragmatique. Et aujourd'hui, qui peuple cet endroit? À quoi il ressemble cet endroit? Vous y êtes allé récemment?
J'y ai pas été depuis 2 ans, je crois. Je crois que c'est... Mais en 2 mots, puisqu'on n'a plus que quelques phrases à pouvoir dire.
Oui, il reste 30 secondes.
Il y a toujours des zadistes, etc. Je vais vous le dire en 30 secondes. Ça a été la matrice d'un vrai mouvement, les soulèvements de la terre notamment, qui irrigue et qui donne des clés pour d'autres luttes, avec en quelque sorte d'autres recettes. Et la recette fondamentale, c'est allier toutes les formes de lutte et allier des zadistes, des jeunes, des vieux, des associatifs, des élus, des experts, parce que c'est comme ça qu'on peut bouger et établir un rapport de force, comme cela a été dit.
Bien, merci Hervé Kempf. Je rappelle que vous êtes journaliste et écrivain et directeur de la rédaction de Reporter, qui, comme son nom l'indique, s'occupe d'écologie, parce que c'est Reporter, T-E-2-R-E. Assez bien vu d'ailleurs. Au revoir, merci.
Merci beaucoup.
Des affaires sensibles aujourd'hui, Notre-Dame-des-Landes, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Titouan Labarre.